Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Marie-Thérèse Charlotte, née le 19 décembre 1778, est la fille aînée de Louis XVI et Marie-Antoinette. Aimée, choyée, protégée à la cour de Versailles dans ses jeunes années, elle est soudain emportée avec sa famille par le violent tourbillon de la Révolution. L'échafaud fauche tour à tour son père, sa mère, sa tante Élisabeth, ses amis, ses serviteurs et son petit frère, le malheureux Louis XVII, qui disparaît à son tour dans la souffrance et l'abandon le plus complet. Emprisonnée à la prison du Temple durant 3 ans et demi, Marie-Thérèse est la seule à survivre. Quand et comment a-t-elle fini par échapper à ses bourreaux? C'est ce que je vais vous raconter dans cet épisode en 2 parties. Première partie, 3 ans, 4 mois et 5 jours. Nous sommes à Paris le 20 juin 1795. Le comité de salut public, instance qui préside alors aux destinées de la France révolutionnaire, a convoqué une certaine Madeleine La Rochette, dite citoyenne chantraine. Cette jeune femme, âgée de 33 ans, est chargée de servir de compagne à Marie-Thérèse, la fille de Louis Capet, dans la sinistre tour du Temple où celle-ci est enfermée depuis bientôt 3 ans. En découvrant cette dame pour la première fois, Marie-Thérèse est inquiète. Que signifie l'arrivée soudaine auprès d'elle de cette jeune femme? Elle semble agréable, polie, bienveillante, voilà qui est inhabituel, et qui tranche anormalement avec la façon dont elle a été traitée jusqu'alors. Se pourrait-il que cette dame soit là pour l'espionner? Qu'on lui donne soudain pour compagne cette aimable personne pourrait aussi bien être le signe que les choses vont changer, qu'elle sera bientôt libérée de la sinistre prison où elle survit, solitaire depuis des mois. Dans son cœur meurtri, soudain, l'espoir renaît. Depuis des années, la vie de Marie-Thérèse a pris des allures de chemin de croix. Avant même la prise de la Bastille et la Révolution, alors qu'elle avait tout juste 9 ans, elle a perdu sa sœur, la petite Madame Sophie, morte à 11 mois le 19 juin 1787. Elle avait 11 ans, quand 2 ans plus tard, le mardi 4 juin 1789, c'est le dauphin Louis-Joseph, son frère aîné, qu'elle aimait tendrement, qui meurt, âgé d'à peine plus de 7 ans. Malade depuis des mois, perpétuellement fiévreux, enserré dans son corset de fer. Il était devenu rachitique et bossu et ne pouvait plus marcher qu'en étant soutenu par 2 personnes. Marie-Thérèse a vu alors ses parents rongés par l'angoisse, sa mère verser des torrents de larmes. Cette nouvelle mort les a dévastés. Marie-Thérèse a subi elle aussi de plein fouet le choc de cette disparition prématurée, qui a fait de son petit frère Louis-Charles, à seulement 4 ans, le nouveau dauphin de France. Jusqu'alors, la vie à Versailles était si douce, au sein d'une famille aimante. Ses parents se sont toujours beaucoup occupés d'elle et de ses frères. À Versailles, sa mère la gardait toujours près d'elle, surveillant son éducation, supervisant tous les cours elle-même. Elle lui a enseigné la broderie et toutes sortes d'ouvrages à l'aiguille. Sa mère a tenté aussi de la rendre un peu moins fière. À ce sujet, elle avait même écrit à sa sœur. « Ma fille sent qu'elle a du sang de Marie-Thérèse et de Louis XIV dans les veines. Il faut qu'elle s'en souvienne pour être digne de son rang, mais la douceur est une qualité nécessaire et aussi puissante que la dignité. Une nature orgueilleuse éloigne les affections. » Oui, Marie-Thérèse sait bien que sa mère l'a trouvée par trop orgueilleuse, estimant qu'elle se comportait avec une dignité naturelle un peu hautaine. Voilà pourquoi d'ailleurs les membres de sa famille la surnommaient Mousseline la Sérieuse. Mais Est-ce sa faute si chacun flattait sa vanité en s'extasiant sur son joli minois? Pour corriger ce caractère altier, sa mère la faisait dîner avec une petite paysanne, exigeant que l'invitée soit servie la première. Et elle avait choisi une certaine petite Philippine Lambriquet, d'un an plus âgée qu'elle, fille d'un valet de chambre de Madame Élisabeth, pour être élevée en même temps qu'elle. Mousseline se souvient de la phrase que sa mère lui faisait recopier.
« Les airs de grandeur que nous nous donnons ne servent qu'à faire remarquer notre petitesse dont on ne s'apercevrait pas sans cela. »
Oui, la vie était douce à Versailles. Jusqu'au 6 octobre 1789. Ce jour-là, à 6 heures du matin, le drame est à nouveau entré dans sa vie. Le château a été envahi par la foule. Toute la famille s'est retranchée dans une pièce, tandis que la populace hurlait et piétinait. Les émeutiers vociféraient des cris de mort à l'intention de sa mère et exigeaient que la famille royale se rende à Paris. On a donc quitté Versailles. Le voyage jusqu'à Paris a duré 7 heures. C'est à ce moment-là que Marie-Thérèse, ses frères et ses parents sont devenus les prisonniers du peuple. Elle ne peut repenser sans frémir d'horreur au spectacle en tête de cortège, des têtes de leurs gardes du corps posées sur des pics. Ensuite, il y a eu la captivité aux Tuileries, la populace qui venait les observer comme des bêtes curieuses à travers les fenêtres. On s'y est entassé dans quelques pièces sinistres, en campant sur des lits de fortune. Jamais Marie-Thérèse n'avait vécu chose aussi violente. Le peuple venant les voir dans leurs cages dorées et les invectiver, jouissant de leur abaissement, de leur humiliation. Le roi, déprimé, parlant peu. La reine, encore sous le choc de la journée de la veille, la famille entière, plongée dans l'inquiétude et la tristesse. Les journées monotones aux Tuileries, confinées dans leurs appartements. En même temps, elle y dînait chaque jour avec ses parents et sa tante. Jamais elle n'a été aussi proche d'eux, jamais elle n'a été aussi impliquée dans leur vie. Elle les accompagnait dans leurs visites charitables, était présente lorsqu'ils recevaient des délégations. Après la fuite à Varennes et l'échec de la tentative d'évasion de la famille royale en juin 92, le retour à Paris a été une descente aux enfers. La foule violente, haineuse, s'accrochant aux portières du carrosse du roi et de sa famille, traitant le roi de gros cochon. Un individu lui a même craché au visage. À 7 heures du soir, en arrivant aux Tuileries, Marie-Thérèse a regardé sa mère. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. Tout le monde était mort d'angoisse. Puis 2 mois plus tard, quand les Tuileries ont été envahies par la populace et que la famille a dû quitter les Tuileries pour se réfugier aux Feuillants, les Feuillants, c'est ce monastère de la rue de Rivoli où siègent alors les membres de la Convention, eh bien la famille royale a vu ses gardes suisses se faire massacrer. Le 11 août au soir, pendant que chacun tentait tant bien que mal de s'endormir, des émeutiers ont essayé d'enfoncer la porte et ont réclamé la tête de Marie-Antoinette. C'est après cet épisode qu'il a été décidé que toute la famille serait enfermée à la forteresse du Temple, transformée en prison à son intention. Marie-Thérèse se souvient de leur arrivée ici le 13 août 1792, après 2 heures de trajet. Ils étaient exténués. La vie au Temple a toujours été d'une très grande régularité. La plus grande partie de la journée se passe dans la chambre de la reine, au 3e étage, qui sert de salon. Cette chambre est tapissée de papier peint à fleurs de couleur verte sur fond bleu. C'est là que dort Marie-Thérèse, sur une sorte de couchette dans une encoignure. Sa mère, sa tante et elle font des travaux d'aiguille et de tapisserie. Parfois, elles lisent entre elles à haute voix une pièce de théâtre. Le roi fait la dictée à son fils. Vers 17 heures, les captifs ont droit à une promenade dans la cour pendant 2 heures. Marie-Thérèse joue alors avec son frère au toton ou au volant. Un toton, c'est bien sûr une toupie. Des jeux d'enfant, jeux de son âge, puisqu'elle n'a que 13 ans. Son pire souvenir au temple est lié à ce terrible dimanche 20 janvier 1793 où sa mère, sa tante et elle ont entendu dans la rue une voix amie leur annoncer l'issue du procès du roi.
La Convention nationale décrète que Louis Capet subira la peine de mort. L'exécution aura lieu dans les 24 heures à compter de sa notification aux prisonniers.
Toute la journée s'est passée dans l'angoisse, les cris, les sanglots, puis ces moments de silence atroces, assise face à ses parents. Cet épisode, Marie-Thérèse l'a raconté. Nous courûmes chez lui et nous le trouvâmes bien changé. Il pleura de notre douleur, mais non de sa mort. Il raconta à ma mère son procès, excusant les scélérats qui le faisaient mourir. Il donna ensuite de bonnes instructions religieuses à mon frère et lui recommanda surtout de pardonner à ceux qui le faisaient mourir. Il donna sa bénédiction à mon frère et à moi. Cette scène d'adieu du 20 janvier dure près de 2 heures. C'est un cauchemar. La reine étouffe de douleur. Louis-Charles fond en larmes. Marie-Thérèse jette des cris perçants. Le lendemain, 21 janvier 1793, à 10h30, des salves d'artillerie tonnent au loin. Dans la cour du temple, sentinelles et patriotes crient « Vive la nation ! Vive la République !» Louis XVI vient d'être guillotiné. Mais en France, le roi ne meurt pas. Le roi est mort, vive le roi. Quelques mois après la mort de Louis XVI, les dames sont séparées du petit roi, désormais captif à un autre étage. Puis Marie-Thérèse est séparée de sa mère le 2 août 1793. Ma mère partit enfin, après m'avoir bien embrassée et m'avoir recommandé d'avoir du courage et soin de ma santé. Ma tante et moi, inconsolables, nous passâmes la nuit dans les larmes. Le lendemain, ma tante demanda instamment, en son nom et au mien, d'être réunie à ma mère. Nous ne pûmes jamais l'obtenir, ainsi que de savoir de ses nouvelles. Le 9 mai 1794, nouvelle séparation, de sa tante cette fois, qui l'embrasse en pensant qu'elle va la revoir. Je restais dans une grande désolation quand je me vis séparée de ma tante. Je passais une bien triste nuit. Le lendemain matin, je demandais aux municipaux ce qu'elle était devenue. Ils me dirent qu'elle avait été prendre l'air. Je leur demandais d'être réunis à ma mère. Ils me dirent qu'ils en parleraient. C'est alors qu'ont commencé les mois de solitude, de froid et d'ennui, pendant lesquels elle n'a plus aucun contact avec son petit frère. Dans sa chambre, ne défilent plus à toute heure du jour et de la nuit que des hommes à moitié ivres, riant, parlant fort, la tutoyant, la rudoyant. Parfois, l'un d'eux s'amuse à jouer quelques notes sur le clavecin de sa mère qu'elle-même n'ose plus toucher depuis ce jour où elle a chanté avec elle sur ce même instrument une complainte pour la mort du roi. Ses gardiens refusent de lui donner des livres. Alors, depuis des mois, elle a lu des dizaines de fois chacun des livres de piété et de voyage dont elle dispose. Tous les jours, elle balaie sa chambre, jette de l'eau fraîche sur le sol pour rafraîchir la pièce. Comme sa tante l'a exigé d'elle, elle s'astreint 1 heure par jour, montre en main, à marcher très vite dans sa chambre pour faire un minimum d'exercice physique. Tous les jours, elle demande des nouvelles de sa mère et de sa tante. Tous les jours, les gardes lui répondent qu'ils vont demander. Dans Paris, on ne l'appelle plus que l'orpheline du temple. Certains l'ont même baptisée la fiancée de Robespierre, car le bruit a couru que ce dernier avait pour projet de l'épouser. Qu'il ait ou pas nourri cet ahurissant projet, sa chute soudaine le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, en a interrompu le cours. Il a été guillotiné. Depuis, le pays respire un peu. Mais, dans un premier temps au moins, Madame Royale ne voit guère de changement dans sa situation. Alors que toutes les prisons de France se sont ouvertes, elle est toujours enfermée au troisième étage de la tour, dans la chambre qu'elle occupait naguère avec sa mère et sa tante. Tout de même, sa situation s'améliore un petit peu. On la traite moins durement et puis on lui fournit du linge neuf. Elle n'en est plus réduite à ravauder, raccommoder indéfiniment les pauvres hardes dont elle était vêtue. On lui fournit des chemises et des serviettes. Mais elle est toujours seule. Trois fois par jour, ses gardiens viennent constater qu'elle est bien là. À chaque fois, elle demande obstinément des nouvelles de ses parents. À chaque fois, elle supplie qu'on l'emmène à la conciergerie pour y rejoindre sa mère. Mais personne ne lui répond, personne n'ose lui dire l'atroce vérité. Le gouvernement songe depuis des mois à transformer la détention de Marie-Thérèse en résidence surveillée. On ne peut tout de même pas la garder enfermée à vie, car enfin quels sont ses crimes? Et n'a-t-elle pas assez souffert? Mais comment la libérer, sans libérer son frère qui, lui, est roi de France? 10 jours avant l'arrivée de Madame de Chantraine au temple, le calvaire du petit Louis XVII s'achève. Il meurt le 8 juin 1795. On dissimule soigneusement l'événement à Marie-Thérèse. Elle l'ignore encore, mais les corps de sa mère et de sa tante, dont elle réclame douloureusement des nouvelles chaque jour, sont déjà enterrés 6 pieds sous terre depuis des mois. Son frère mort, plus rien n'empêche désormais la Convention de libérer la malheureuse. Des voix s'élèvent en ce sens. Le premier pas dans l'assouplissement de son sort est donc la nomination de Madame de Chantraine, une compagne choisie pour ses vertus morales et républicaines. Quand elle lui est présentée, Marie-Thérèse de France vit dans cette forteresse sinistre depuis 34 mois. Elle a 16 ans et demi. Que faire de cette adolescente, unique survivante de la famille royale? L'exécuter elle aussi? La garder prisonnière à vie et la laisser mourir en prison comme son frère? Ou pourquoi pas l'échanger contre des prisonniers français? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à Marie-Thérèse, l'orpheline du Temple.